Alors, la défense a la parole. Maître Moineau.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, Mesdames et Messieurs, Messieurs des renseignements généraux, jusqu'à présent très discrets, mais qui ont pris des notes très précises, qui serviront à nous distraire quand nous nous retrouverons à Fleury-Mérogis. Aujourd'hui, vous avez assisté à un procès, mais c'est un procès en réalité médiatique, car vous l'avez bien vu, dès que l'on va dans les détails, eh bien la réalité judiciaire, vous en avez eu un aperçu, rien ne transparaît, et bien sûr rien ne transparaît, parce que il n'y a rien au dossier, c'est la phrase consacrée, je la prononce ce soir. Qu'est-ce qu'un procès médiatique? Eh bien un procès médiatique, c'est celui de la rumeur. Ce soir, nous avons considéré que Chirac était super voleur. Il y a 20 ans, on aurait jugé ici, dans les mêmes circonstances, facho Chirac. Il y a 10 ans, on aurait jugé crétin Chirac. Et il y a 3 ans, on aurait jugé super menteur. Alors, revenons un petit peu en arrière pour voir quelle est la valeur de ces jugements. En 1974, je me souviens, ma mère me disait, j'étais pas grand à l'époque, Chirac n'est pas nazi, mais il est quand même plutôt de ce côté-là. Ça a été mon éducation politique, elle était mitterrandienne, elle l'est toujours d'ailleurs. Elle ne se remet pas de sa mort. C'est dire que j'ai un passif lourd pour défendre Chirac ce soir. Alors, Chirac et l'argent, dans ce procès médiatique, on a vu les médias se trompent régulièrement, se sont toujours trompés, mais il faut quand même répondre. Alors voilà, super voleur, le gentleman carambouilleur, eh bien il a volé la vedette à facho Chirac, à crétin Chirac, à super menteur. Demain, on jugera sans doute macho Chirac, mégalo chichi, super saligo, peut-être mieux super salopio, parce que ça fera une double allitération en S et en P. Et me voilà sur l'argent, l'argent qui rend fou, disait Mitterrand, sans doute en pensant à son ami Roger Patrice Pelat ou au nouvel appartement de Jack Lang, place des Vosges. Cet argent qui, avec Christian de la Malène, circulait à Paris avant Jacques Chirac, qui, avec Gaston Defer, naviguait à Marseille, qui, avec Pierre Mauroy, fleurissait à Lille, et que l'on trouve dans toutes les grandes villes, les villes moyennes et les petites villes de France, et dans les communautés urbaines, les départements et les régions. Donc, sur le sujet l'argent et la politique en France, nous procéderons à l'étude d'un cas particulier, Chirac-Jacques, qui nous intéresse d'autant plus ce soir que nous sommes 80% quand même à l'avoir élu président. Alors, ces problèmes, à titre personnel, Chirac les a réglés une fois pour toutes, en épousant Bernadette Chaudron de Courcelles, richement dotée, plutôt qu'une quelconque Guilaine écuelle des Batignolles. Pour Chirac, l'argent, c'est pour la politique. Mais c'est vrai que pour lui, la politique, c'est toute sa vie. Alors, examinez sa vie, et regardez la vôtre, et demandez-vous si ces tribunaux ne sont pas des tribunaux de la morale. Parce que il est un petit peu énervant, ce Jacques Chirac, quand même. Secrétaire d'État à 30 ans, qu'est-ce que vous faisiez à 30 ans? Député, puis 3 fois ministre, Premier ministre à 42 ans, monsieur l'assesseur, maire de Paris à 45 ans, madame le procureur, président de la République à 62 ans et à 69 ans, monsieur le président. Lui a bénéficié d'un appartement de 1000 mètres carrés au cœur de Paris. Sans se fader les agents immobiliers, ni la lecture de Paris Boum Boum, Dieu sait que c'est pénible, ou du particulier à particulier, c'est encore pire. Il a joui, messieurs les membres du jury, des charmes de 207 femmes, pour un fabuleux plaisir de 621 minutes. Il a voyagé 261 fois à l'étranger, sans jamais avoir été victime du surbooking, ce qui lui donne suffisamment de miles pour faire 39 fois le tour de la Terre. Il a des photos souvenirs avec George Bush. Comme vous, c'est vrai, comme vous. Mais ces photos à lui ne viennent pas du magic Photoshop de l'aéroport. Et aujourd'hui, plus énervant encore, il vit dans un hôtel particulier du 8e arrondissement avec jardin domestique et surtout, possibilité de garer la voiture dans la cour. C'est agaçant, je le reconnais. Heureusement, ce n'est pas un de vos proches, parce que le succès de ses amis est bien plus pénible que celui de ses ennemis. Mais attention, Jacques Chirac n'est pas arrivé là par miracle. Il a serré dans sa vie 280 337 mains, dont 83% étaient moites. Il a embrassé 23 345 retraités, dont 21 250 venaient de manger leur chocolat de Noël. Il a aussi embrassé le culte de sa femme et caressé le cul de plusieurs milliers de vaches en les appelant par leur prénom, et sa femme aussi. Alors les hommes politiques travaillent, ils commencent tôt le matin, ils finissent tard le soir, ils travaillent pendant les week-ends et les vacances. Ils l'ont choisi, ils l'assument. Mais cette activité, il lui faut de l'argent, il lui faut beaucoup d'argent. L'argent pour la politique, il en faut. Il y a les cars, les militants, les tracts, les brochures. À l'occasion des fêtes de Noël, quant au champ, inonde vos boîtes aux lettres de promotion sur le foie gras de Hongrie. Ça lui coûte en frais de presse et de distribution à Auchan environ 1 euro par prospect. Eh bien, les prospects de la démocratie, les électeurs, bénéficient d'un budget alloué aux partis politiques qui n'est pas supérieur et qui est aussi d'un euro par prospect démocratique. Les Français ne veulent pas payer le prix de la démocratie. Ils préfèrent plus de tarama sur leur canapé de Noël et moins de débats républicains. Et ce sont ces Thénardier franchouillards qui prétendent reprocher aux causettes de la politique la collecte des moyens nécessaires au fonctionnement régulier de la démocratie et des institutions. Jacques Chirac donne de grandes réceptions, justifiées par ses hautes fonctions. Et eux, les Thénardier, ils comptent les petits fours et les papiers des petits fours. Et ils comparent le nombre d'olives livrées le matin avec le nombre de noyaux recrachés le soir. Jacques Chirac, oui, c'est vrai, il mange énormément, peut-être pas 4000 francs, mais il mange, oui, il mange, il invite. Et tous, ils mangent ensemble, avec chaleur et générosité. Et eux, les Thénardier, tapis dans les cabinets, demandent à la justice de peser ses excréments. Eh bien, si c'est là leur plaisir, il y a pour eux à la sortie un seau, des gants et un pèse-caca. Un terraillon. Pour qui ? Pour tout ce qui sort du fion. Quant à nous, nous autres, regardons la réalité en face. Oui, oui, Jacques Chirac est coupable. Coupable d'être un homme politique et non un froid technicien incapable de gagner les élections. Ce n'est pas Barre, ni Balladur, ni Delors, ni Aubry. Oui, Jacques Chirac a fait sienne la maxime de Jean-Baptiste Botulle, le grand Jean-Baptiste Botulle, qui disait que la transparence est à la démocratie ce que la pornographie est au sentiment. Oui, Jacques Chirac incarne l'énergie de la volonté. Il peut dire tout et son contraire, cacher l'essentiel et montrer ses couilles aux journalistes pour leur montrer qu'il n'y a pas toujours loin du mythe des couilles à la réalité des testicules. Ça ne veut rien dire, mais je l'ai dit quand même. Oui, Jacques Chirac règne, doyen des chefs d'État et du gouvernement, en Europe et en France, maître du jeu politique depuis que Jospin a été renvoyé au vestiaire et qu'il a décidé de s'y enfermer. Pour y faire quoi ? Personne ne sait. Pendant que Jospin, qui avait donné aux Français les 35 heures à la couverture médicale universelle, commence enfin à comprendre que la solidarité, c'est la charité sans les remerciements, Chirac fait croire aux Français qu'il ne débande jamais. Oui, Chirac sait que la politique est l'art d'obtenir l'argent des riches et les suffrages des pauvres sous prétexte de les protéger les uns des autres. Cet homme politique est sans équivalent. Il y aura dans la Ve République deux périodes, avant JC et après JC. Devant le mystère qu'il incarne, nous devons en appeler à la dernière forme de sacré qui reste dans notre société, l'onction du suffrage universel. Vous pouvez le juger, vous devez le juger, mais je demande alors que tous les Français de plus de 18 ans soient convoqués comme jurés pour rendre au mois de mai 2007 une décision juridiquement et politiquement incontestable. Vive la République, vive la France !